chapitre 11 et 12. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Alors, vous savez qu'à l'époque, eh bien, les gens avaient des périodes pour faire la guerre, hein, quand il faisait bon, par exemple, comme quand maintenant il y a du soleil au printemps, hein, c'était le moment où ils faisaient la guerre pour conquérir de nouveaux territoires ou récupérer des territoires. Donc, voilà ce qui s'est passé ici, donc l'année suivante. Et alors, donc, il faisait bon, alors on menait campagne. Mais il a dit ici que donc l'armée de David est allée en guerre, mais lui, il est resté à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Dans certaines versions, c'est marqué le Hittite. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Et David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri, verset 9, se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans la maison, dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Uri était un homme droit, était un homme intègre. Malgré le fait que on l'a saoulé, il est resté malgré tout droit. Et on va voir ici, David, il a commis une bêtise, et pour couvrir une bêtise, il va commettre une autre bêtise. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pour couvrir un péché, on commet un autre péché. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu, qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ?» Alors, pour vous expliquer un peu, donc autrefois, dans certaines grandes villes étaient des villes fortifiées avec des grosses murailles tout autour. Et donc, pour pouvoir attaquer ces villes-là, donc il fallait franchir ces murailles. Et c'était de hautes murailles. Et quand on s'approchait, si on était trop près, donc on risquait, eh bien, d'être tué. Donc, comme ça, vous comprenez un peu. Et, par exemple, Bruxelles aussi était une ville fortifiée, hein. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les portes, hein. Porte d'Anderlecht, porte de Namur, porte de Halle, etc. Donc, c'était fortifié. Et alors, donc ici, plus loin, on va raconter un incident qui s'était passé déjà dans l'histoire d'Israël, comment quelqu'un s'était fait tuer parce que cette personne s'était approchée trop près des murailles. Verset 21, alors, qui, on va relire le verset 20, peut-être se mettra-t-il en fureur et dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébeth? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Verset 27. « Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison. Elle devint enceinte, et lui enfanta un fils. » Ensuite, qu'est-ce qui est écrit? « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Voyez comment on est sévère vis-à-vis des autres et indulgent envers soi-même. Incroyable. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Quel courage de la part de Nathan. Et quelle sagesse aussi. Il a présenté une histoire. Et là, donc, David était sans pitié, mais là, Nathan va lui dire, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la maison de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. » Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Même si c'est pas toi-même, mais puisque tu l'as commandité, c'est toi qui l'as fait. Hein? Il y a, parfois on voit ça dans la politique, hein? C'est pas moi, hein? Mais on l'a commandité. Et on se cache, on dit, oui, donc, Et c'est les subalternes parfois qui payent. Mais rien n'échappe à l'Éternel. Ici, le prophète lui dit, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais coller sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et on peut dire, malgré l'horreur de ce que David a fait, et c'est là le mérite de David, il a reconnu son péché. Il n'est pas comme cet autre roi, quand l'homme de Dieu lui a parlé, qui a voulu le gifler. Mais David a dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Verset 15. Et Nathan s'en alla vers sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écouté. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidia à cause de l'Éternel. Amen. Voilà, l'histoire est un peu longue, mais je pense que c'est bien de situer cela dans son contexte. Et j'aimerais vous dire que ce passage est vraiment rempli de leçons. Mais pour ce matin, nous allons considérer simplement trois leçons à partir de ce passage. Ce qui est extraordinaire, formidable avec la Bible, qui nous montre que c'est vraiment un livre de Dieu, ce n'est pas un livre d'homme, c'est que lorsque la Bible nous raconte l'histoire des grands hommes, des héros de la Bible, des héros de Dieu, eh bien la Bible nous montre non seulement leur qualité, mais aussi leurs défauts, non seulement leur force, mais aussi leur faiblesse. Et donc, comme cela, nous pouvons apprendre non seulement de leur force, mais aussi de leur faiblesse. La Bible nous montre des choses à imiter et des choses aussi à éviter. Et ce que nous pouvons voir dans ce passage, dans cette histoire, c'est qu'on voit que David a commis un double péché. Il a commis un adultère, suivi d'un meurtre. Mais on voit que lorsque l'homme de Dieu s'est présenté à David, David s'est quand même humilié et David a quand même reconnu sa faute. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et nous pouvons voir, lorsque nous péchons, nous ne péchons pas avant tout contre l'homme, mais nous péchons contre l'Éternel. Et c'est ce que David a reconnu au travers de cela. Et ce qui nous vaudra ce joli psaume qu'il écrira suite à cet événement. Quel est ce psaume? 51. J'ai péché contre toi seul. Donc David a eu le mérite de reconnaître ses péchés. Mais il est très important de remarquer, et c'est ça notre premier point. Chapitre 12, 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. La première chose que nous devons comprendre, c'est que le péché amène toujours un jugement et ne reste jamais impuni. Le péché amène toujours un jugement et ne reste jamais impuni. Il y a toujours des conséquences. Je vais prendre un exemple banal. Et c'est un exemple que j'aime souvent répéter. Quand j'étais adolescent, au tout début de ma conversion, on était un groupe de jeunes. Et parmi nous, il y avait donc un frère qui était un peu colérique, un peu impulsif comme ça. Et il disait, quand il était fâché, je vais lui casser la figure et après je vais demander pardon. On disait, mais attention, hein, on ne doit pas délibérément pécher et dire après on va demander pardon. Qui sait si tu auras le temps de demander pardon? Mais maintenant, supposons que notre homme en question, notre frère en question, donc aille se battre, aille se bagarrer. Et dans la bagarre, il se fait casser le nez. Ah, supposons, hein. Maintenant, peut-être après, il va demander pardon. Mais son nez reste cassé. Donc, ce qui veut dire, il faut faire attention, on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Beaucoup de gens jouent avec la grâce de Dieu. Or, que nous dit Paul? Ne sais-tu pas au homme que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Au lieu de nous inciter au libertinage, au péché, la grâce de Dieu doit nous pousser plutôt, eh bien, à la repentance. Nous venons de célébrer la Sainte Cène. Nous devons comprendre que lorsque Jésus est allé à la croix, c'est à cause de nos péchés. Et chaque fois que nous péchons, eh bien, nous sommes en train de crucifier à nouveau Jésus-Christ. Et c'était quelque chose de pénible, de douloureux pour Jésus. Même lorsqu'il était Dieu, lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, éloigne de moi cette coupe, parce que c'était vraiment dur. Et Luc nous dit que, Luc ou Marc, il nous dit que il y avait comme des grumeaux de sang qui coulaient de lui lorsqu'il était en agonie là, à Gethsémané. Donc le péché a coûté beaucoup à notre Seigneur. Si, notre salut est gratuit, mais cela a coûté beaucoup au Seigneur. Donc il ne faut jamais jouer avec le péché. Maintenant, regardons un peu les conséquences du péché de David. Le Seigneur l'a pardonné, mais regardons un peu. Toujours au chapitre 12, première conséquence, verset 10. Mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. David était un grand roi. Et sous son règne, le pays était uni, c'est vrai. Mais David n'a cessé de connaître la guerre dans sa vie. Et à un moment donné, il a eu une excellente idée, une idée lumineuse, une idée extraordinaire. Construire un temple à l'Éternel. Et quand il a partagé cela avec l'homme de Dieu, il a dit, j'ai une idée. Regarde, moi, j'habite dans un palais magnifique. Et le tabernacle, le tabernacle, eh bien, est sous une tente. Et le tabernacle représentait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle, vous vous rappelez? Dans l'arche, pardon, pas le tabernacle, dans l'arche. Oui, il y avait la loi, les deux tables. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La manne. Et ensuite? Voilà, le bâton d'Aaron. Donc, l'arche représentait la présence de Dieu parmi Israël. Et donc, et David dit, l'arche demeure sous une tente et moi, j'habite un palais. Il dit, je vais construire un temple à l'Éternel. C'était une bonne idée, mais le Seigneur a refusé. Pour quelle raison? Il dit, tu es un homme de guerre, tu es un homme de sang. Ce ne sera pas toi qui me construiras ce temple, mais ce sera ton fils qui sera un homme de paix. Donc voici une des conséquences du péché de David. L'épée ne s'est jamais éloignée de sa maison. David a toujours été en guerre. Ça, c'est verset 10. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Est-ce que cela s'est passé? 2 Samuel 16. Verset 22. On va lire à partir du verset 20. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Verset 22, on dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Et donc voilà, David a été avili par son propre fils avec ses propres concubines. Il avait volé la femme d'un autre, et lui, donc voilà son fils qui va vers ses propres concubines. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose aussi, verset 14, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Effectivement, on voit que David a beau jeûner, pleurer, prier, mais rien n'est fait. Dieu avait dit, ce fils-là mourra. Et on a vu que, eh bien, effectivement, ce fils mourra. Donc, il y a des conséquences au péché de David. Le péché amène toujours un jugement et ne reste pas impuni. Donc, par conséquent, il ne faut pas jouer avec le péché. Ça, c'est la première leçon. La deuxième chose, c'est que lorsque nous péchons, nous faisons, verset 14, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Lorsque nous péchons, eh bien, cela a des conséquences, non seulement sur notre vie personnelle, directe, mais ça a des conséquences même sur les autres personnes. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, dort avec une cigarette à la bouche, qu'est-ce qui arrive? Parfois, la maison prend feu et d'autres personnes meurent avec. Dans les années 80, je me rappelle ici, à cette époque-là, les chrétiens étaient vraiment très surveillés. Les chrétiens évangéliques étaient très surveillés. Et on était considérés un peu comme des sectes. Et c'était à ce moment-là qu'il y a eu les fameux scandales avec Jim Baker, Jimmy Swaggart. Et je peux vous dire que cela avait eu des répercussions non seulement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Partout dans le monde où l'évangile était prêché. Et je me rappelle, j'étais allé à Bruxelles pour évangéliser. Et pendant que j'essayais d'évangéliser, de parler du Seigneur, quelqu'un m'a dit, tu es aussi de l'église de cet homme? Ah là là, c'était dur, c'était dur. Et à l'époque, on écrivait quasi tous les jours un article pour dénigrer les chrétiens. Oh, le prédicateur concupiscent, etc., etc. Et je me rappelle même l'école biblique était sous surveillance. Les églises étaient sous surveillance. Il y avait comme des espions qui venaient voir ce qu'on faisait pour écrire des articles méchants. Et voilà, parce que quelques-uns, eh bien, ont péché, et cela a des répercussions sur les autres. Cela fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Lorsque nous péchons, nous devons savoir que cela a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi cela a des conséquences pour notre entourage. Cela a des répercussions phénoménales. Mais troisièmement, là ça c'est un point de consolation, Dieu est le Dieu aussi qui restaure si nous confessons nos péchés et si nous confessons sincèrement nos péchés. Amen. 1 Jean 1:9. Vous connaissez 1 Jean 1:9? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous persistons, alors là, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais lisons aussi verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Hein? Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Parce que celui qui dit cela, eh bien, il rend Dieu menteur. Et nous savons que Dieu ne ment pas. Donc voilà. Il y a aussi une promesse, il y a aussi une consolation. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ce principe-là, David l'avait compris. C'est un principe que David avait compris quand il jeûnait pour ce garçon-là. Mais une fois que l'enfant est mort, il dit, bon, ok, c'est fini, je ne jeûne plus. Et on peut dire que David, c'est un homme qui connaissait Dieu. Un exemple de cela, on le trouve dans 2 Samuel 24. C'est à un moment donné, Il est dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre David. Oh, lisons ça, 2 Samuel 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le Seigneur mon roi veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Seigneur, pardonne-moi. » Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. » Un dilemme pour David. Et là encore, on peut voir, chaque péché a ses conséquences. Il n'y a pas de péché sans conséquences. Et là, on va voir David, la réponse de David. Verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » Très difficile. Verset 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. » Il y a le cas. « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Extraordinaire. Il dit, « Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Voilà un homme qui connaissait Dieu. Il dit ton mot. Et effectivement, Dieu va avoir pitié de David, verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Là encore, je disais, quand on pêche, ça a des conséquences non seulement sur soi, mais aussi sur les autres. 70 000 hommes sont morts. Verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez. Retire maintenant la main. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arafna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arafna, le Jébusien. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arafna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arafna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arafna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arafna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chats avec l'attelage serviront de bois. Arafna donna le tout au roi et Arafna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Et maintenant, écoutez ce que David dit. Mais le roi dit à Arafna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Extraordinaire. David sait aussi que Dieu, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Et vous voyez qu'il a bâti un autel à Arav, en fait, ici, là. Et qu'est-ce que nous apprenons par l'histoire? C'est que ce même endroit où David a bâti l'autel pour apaiser l'Éternel dans cette situation, ce sera le lieu de la construction du temple, que bien des années plus tard, son propre fils construira. Revenons à notre passage de 2 Samuel 12. On va voir comment Dieu restaure David. Oui, donc le péché a ses conséquences. Le fils qu'a eu Bathsheba dans cette affaire est mort. Dieu a dit, cet enfant mourra. Mais regardons un peu plus loin. Verset 24, 2 Samuel 12, 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle, et elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Le mot Salomon, c'est un mot de la même racine qui signifie paix. Shalom, hein, vous connaissez Shalom, Shalom Shlomo, Shalom Shlomo, donc c'est qui signifie paix. Et durant le règne de Salomon, il y aura paix pendant pratiquement tout son règne. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja. Et Jedidja signifie aimé de l'Éternel. Hein? Aimé de l'Éternel. David aura quand même un fils de Bathsheba qui est aimé de l'Éternel. Et le mystère de Dieu, c'est que Salomon sera un des ascendants du Messie. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui restaure. Donc, si nous péchons, ne persistons pas dans nos péchés, mais confessons nos péchés à Dieu, et Dieu est capable de nous restaurer. Amen. Dieu est capable de nous restaurer, comme il a restauré David, comme il a pu dire de David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur, ça ne veut pas dire l'homme parfait. Amen. L'homme selon mon cœur, ça ne veut pas dire l'homme parfait. Donc ce que Dieu a dit de David, il peut le dire aussi pour toi. Il peut le dire pour moi. Amen. Est-ce que nous voulons être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? C'est possible. C'est possible. David connaissait Dieu. Il dit, tombons entre les mains de l'Éternel. Non, ne me laisse pas tomber entre les mains des hommes. Les hommes sont sans pitié. Mais l'Éternel a pitié. Il dit, Seigneur, c'est Dieu, et j'accepte ce que tu dis. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois, David accepte les réprimandes, et il accepte le jugement, il accepte la sentence. Seigneur, puisque tu l'as dit, j'accepte. Et là, David n'était pas orgueilleux qui dit, écoute-moi, c'est moi le roi, hein, j'ai le droit de prendre qui je veux pour femme, ou j'ai le droit de vie et de mort sur qui je veux, mais c'est pas vrai. Il y a toujours une autorité au-dessus d'une autre. Et l'autorité suprême, c'est Dieu. Et David a reconnu cela. Il n'a pas dit, j'étais roi, qui es-tu, Nathan, qui es-tu, Gad, qui es-tu, hein, c'est moi le roi, donc je fais la pluie et le beau temps, non. Et il a reconnu quand un serviteur de Dieu est venu à lui. Et il a dit, j'ai péché. Et il a reconnu quand il a péché, c'était pas seulement contre un homme qu'il avait péché, mais c'était contre Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés, chaque fois que nous péchons avant tout contre Dieu. Et c'est cela qui a préservé Joseph. Vous vous rappelez de Joseph dans l'Ancien Testament? Il a été vendu comme esclave en Égypte, et il est arrivé chez Potiphar, et tout allait bien. Potiphar lui confiait toute sa maison. Joseph aurait pu dire, ah, voilà, c'est la fin de mes tribulations, de mes problèmes, je suis bien. Et voilà que la femme de Potiphar vient auprès de Joseph pour le séduire. Il aurait pu dire, ah, je vais en profiter. Mais pourquoi est-ce que Joseph n'a pas profité? Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Parce qu'il savait que s'il péchait, c'était non seulement trahir la confiance de son maître, mais c'était surtout trahir la confiance de son Dieu. Et la Bible nous dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour l'Éternel. Quand tu rends service à quelqu'un, tu le fais avant tout pour le Seigneur. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est au Seigneur. Parce qu'à la fin, que nous dit Jésus? J'ai été en prison et tu m'as visité. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'étais nu et tu m'as habillé. Et on va dire, mais quand est-ce que tu étais nu, Seigneur? Quand est-ce que tu étais en prison? On peut imaginer Jésus en prison? Mais ce sont nos semblables. Tout ce que nous faisons à nos semblables, au plus petit, c'est à Dieu que nous le faisons. Donc tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Amen. Quand je viens ici, je viens avant tout pour le Seigneur, pas pour Pascal. J'aime bien mon frère, mais avant tout, je viens pour le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout cœur. Et ne pas faire les choses à moitié. Quand ma soeur fait la soupe, tu fais la soupe pour le Seigneur. Tu fais de la bonne soupe. Et donc voilà, mes bien-aimés. Donc, le péché a toujours des conséquences. Donc, si nous péchons, que ce soit par accident, mais pas par préméditation ou de manière délibérée, et parce que nous devons savoir que lorsque nous péchons, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel. Ils disent, ah, voilà, ceux-là qui se disent chrétiens. Ah, voilà, encore une fois. Ah, je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Ah, je savais, ce sont des hypocrites, etc. Voilà ce qui arrive. Les ennemis de l'Éternel blasphèment. Ils blasphèment, ils blasphèment. Mais nous ne devons pas donner à l'ennemi l'occasion de blasphémer. Mais nous devons savoir que si, malgré tout, pour une raison ou une autre, nous trébuchons, notre Seigneur est un Dieu de miséricorde. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a espoir, comme dit le proverbe. Donc, si nous péchons, confessons-le. Faisons comme David. Lisons ensemble pour terminer le psaume 51. Hein, c'est le psaume que David a écrit après cet incident. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Vous avez vos Bibles? Que ceux-là qui ont leur Bible et qui ont peut-être la même version que moi, on va lire ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne déteignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Extraordinaire. David reconnaît ici dans ce psaume, lorsque tu as péché, eh bien tu perds la joie. Et tu perds aussi la présence du Seigneur. Et donc, si nous voulons avoir la joie, l'Esprit Saint, la présence du Seigneur, nous devons nous éloigner du péché. Rends-moi la joie de ton salut. Et donc, il dit aussi ici, ce que l'Éternel attend de nous, c'est pas des sacrifices, des holocaustes. On peut les faire, mais avant tout, c'est avoir un esprit bien disposé, un cœur sincère, un cœur ouvert. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur sincère envers lui, à vouloir le servir, lui plaire en toutes circonstances, qu'il nous aide. Et que les ennemis de l'Éternel ne blasphèment pas à cause de nous. Mais sachons aussi que l'Éternel est celui qui peut nous restaurer. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Pouvons prier peut-être que plusieurs puissent élever leur voix vers le Seigneur par rapport à ce qui a été dit.